Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, Europe Soir Weekend jusqu'à 20h, débat, décryptage, analyse avec ce soir dans le studio d'Europe 1, Frédéric Dabi, directeur général IFOP, Jeannette Bougrab, essayiste, Patrick Caram, vice-président LR de la région Île-de-France et Philippe Doucet, membre du Conseil national du Parti Socialiste. Alors ce matin, dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Manuel Valls était l'invité de Dimitri Pavlenko et l'ancien Premier ministre n'a pas manqué de renouveler sa charge contre la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUP. Écoutez.
Mon adversaire dans cette campagne, ce sont les extrêmes, mais c'est le mélenchonisme. Parce que tout candidat, qu'il soit ex-socialiste, ex-écolo, écolo-socialiste, tout candidat de cette union populaire, c'est un candidat mélenchoniste.
D'accord, pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre, Philippe Doucet ?
Bon, honnêtement, je suis un peu fatigué d'entendre Manuel Valls. Hein, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui par le passé, mais...
Fatigué pourquoi ? Parce que vous considérez qu'il est parachuté ?
Parce que, non, mais ça après, c'est ses choix à lui et les électeurs tranchons. C'est quand on bascule chez Emmanuel Macron, c'est son droit, c'est son choix, c'est tout ce qu'on veut. On ne vient pas nous expliquer la vie sur comment la gauche doit se gérer.
Ouais. Voilà. Vous trouvez ça un peu déplacé, un peu insolent ?
Oui, c'est, d'abord, il dessert les sociaux-démocrates, il dessert ceux qui sont pour une gauche de responsabilité, parce que comme il est passé de l'autre côté de la barrière, et c'est son droit le plus strict, quand on est passé de l'autre côté de la barrière, on ne vient pas nous expliquer la vie tous les matins sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Et donc, du coup, il est tellement devenu une caricature de lui-même que, il voudrait aider Jean-Luc Mélenchon qu'il fasse une télé tous les jours, une radio tous les jours pour dire ça. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais être sûr qu'il n'appelle pas en disant « Vas-y, Manuel, parle, tu m'aides. » Parce que là, il l'aide. Donc, il ferait mieux de s'occuper de l'Espagne, du Portugal, de sa circonscription. Il ferait mieux de s'occuper de Marine Le Pen, qui est quand même à 42% et qui est quand même deuxième force à gauche, plutôt que d'expliquer, en gros, aux socialistes, aux écologistes, leur expliquer la vie. Parce qu'à un moment donné, il est plus... C'est fatigant qu'il nous explique la vie. Et même moi, qui ai eu l'occasion de travailler avec lui par le passé, ça me fatigue qu'il m'explique la vie tous les jours.
Eh ben, c'est clair. Merci Philippe Doucet. au moins, là, c'est tranché.
C'est que peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, les socialistes ou ceux qui restent du Parti Socialiste, parce que j'ai plutôt l'impression que Faure vient de déposer, on parle des commémorations, mais une rose sur la tombe des socialistes, en ayant fait cet accord.
Restons sur Manuel Valls.
Alors, sur Manuel Valls, effectivement, j'ai presque envie de dire, c'est la valse à mille temps. Il est étonnant, ce Manuel Valls. Il est extrêmement étonnant. Souvenez-vous, quand il était Premier ministre, son ennemi à l'intérieur du gouvernement, c'était qui ? L'homme qui l'aimait le plus recadré, l'homme
Emmanuel
qui
Macron.
Était... Mais oui, Emmanuel Macron, qui ne pouvait pas encadrer.
C'était surtout un combat anti-Le Pen, Patrick, lorsqu'il était à Matignon, si je ne me trompe pas, face à Marion Maréchal à l'Assemblée.
Je dis à l'intérieur du gouvernement, parce qu'à l'extérieur, Manuel Valls est irréprochable. Irréprochable contre l'extrême droite, irréprochable aussi contre ceux qui portent atteinte aux valeurs de la République. Manuel Valls a l'ADN d'un homme finalement de droite, avec une sensibilité de gauche. Manuel Valls, effectivement, aurait pu être un de ceux qui auraient pu sauver l'honneur de la gauche s'il n'avait pas décidé de partir en Espagne.
S'il n'avait pas voté
pour les républicains,
s'il n'était pas quand t'appelles à voter pour les républicains sur régional, tu rejoins les républicains, t'écris avec eux.
Oui, mais là,
tu sauves l'honneur de personne.
Appeler à voter Mélenchon, il ne faut surtout pas lui donner de leçons, monsieur Doucet.
Mais je ne donne pas de leçons. Mais
il faut baisser la tête et demander pardon.
Je n'accepte pas qu'on me donne.
Allez faire un pèlerinage à Lourdes et allez vous laver la bouche à l'eau bénite.
Je n'accepte pas.
Parce que vous dites beaucoup de mal.
Moi, je ne donne pas de leçons.
En tout cas, ne dites jamais du mal des socialistes. Ils s'en chargent entre eux.
Ne vous parlez pas les uns sur les autres, on n'entend pas.
Ça fait longtemps qu'il n'est plus ceci.
Sur Manuel Valls, Manuel Valls fait partie de ces républicains absolument irréprochables. Je ne l'ai jamais entendu dire, en situation, pas en situation, je ne l'ai jamais entendu faire de concessions sur les valeurs. Et il combat, et ses combats, c'est contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche. Après, j'avoue que son positionnement, partir en Espagne, se faire élire, échouer, revenir, faire
le pied
de rue de l'Élysée pour essayer d'obtenir la grâce de Macron et obtenir finalement, au bout de 5 ans, réussir à obtenir le pardon présidentiel pour pouvoir se présenter, effectivement, il fallait beaucoup d'abnégation.
Face à un candidat LREM qui est en place, faut-il le rappeler, Stéphane Vojetta.
Il fallait beaucoup d'abnégation de sa part. C'est un peu ironique.
Patrick Carrel, je passe la parole à Frédéric Dabi.
Merci infiniment. Voilà. Merci infiniment.
vous parlez beaucoup, Patrick. Hein. Je vais vous couper le micro.
Non, mais... On écoute. Non, je suis même plutôt assez d'accord avec lui. J'ai dit tout à l'heure avec vous.
Avec vous, c'est qui vous? Patrick Aram.
Oui. Mais dites-le. C'est vous qui. Mais vous savez, les auditeurs reconnaissent votre voix. Ne vous inquiétez pas.
Merci.
Non, ce que je vais vous dire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche, de sympathisants de gauche, qui peuvent être satisfaits de voir cette gauche s'unir. Il y a aussi un électorat de gauche social-démocrate qui d'ailleurs a parfois choisi Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle, qui ne peut pas supporter une alliance, union dont, au sein de laquelle Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, quand on connaît leur position sur la laïcité, sur l'Europe, sur ce qui se passe en Ukraine, a le leadership. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a cité tout à l'heure les élections régionales et le fait que Manuel Valls et Jean-Paul Huchon avaient appelé à voter pour Valérie Pécresse. Moi, c'est vrai que c'est une élection qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai regardé le second tour, où l'addition des pourcentages ou des voix de Julien Bayou, qui était la tête de liste EELV, Audrey Pulvar pour le PS et Clémentine Autain pour la France Insoumise, a fait un score faible au second tour, et puisqu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ont choisi de voter pour Valérie Pécresse. Donc je pense que, même si c'est vrai que la trajectoire de Manuel Valls parfois peut prêter le flanc à des soupçons de carriérisme, d'arrivisme ou de difficulté de cohérence, il y a quand même beaucoup, je pense, d'électeurs de gauche, et on le verra, on verra le verdict, ce qui n'est pas un verdict sondagier, mais un verdict électoral le 12 juin, qui refuseront l'alliance compte tenu de ce leadership en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
Jeannette Bougrabe.
Oui, sur la question de l'alliance, Frédéric Dabi a tout à fait raison, parce que des personnalités comme Bernard Cazeneuve, qui est resté au bout, qui a soutenu Anne Hidalgo pendant la présidentielle,
et qui a fini par démissionner,
parce qu'effectivement, il y a une question qui se pose, mais qui se pose au sein du Parti Socialiste depuis déjà quelques années. C'est par exemple sur la question de la laïcité. Il y a une fracture au sein du PS. On l'a bien vu quand Isabelle Badinter, éventuellement, ou Gisèle Halimi, notamment sur les affaires de voile en 89 à Creil. Et donc, il y a quand même, depuis quelques années au PS, on l'a vu avec Benoît Hamon. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la candidature des primaires. Donc, il y a quand même une mutation idéologique, en tout cas du corpus.
Emmanuel Valls, pour vous, il incarne cette mutation ?
Je pense que ceux qui ne s'identifiaient plus, en tout cas aux valeurs qui étaient universalistes, d'égalité ou d'autres, ont quitté progressivement le Parti Socialiste pour aller rejoindre République En Marche.
On va réécouter justement Manuel Valls à propos de ce macronisme. Il en faisait avant Macron, figurez-vous, écoutez-le.
C'est vrai que le paysage politique a changé, a été bouleversé. Vous savez bien tous les trois, je le répète, ce sont des phénomènes que nous connaissons partout en Europe et dans les grandes démocraties occidentales, basées sur quelque chose. Moi, j'étais d'accord là-dessus. Je faisais du macronisme avant Macron, quand j'étais Premier ministre, j'étais pour le dépassement du PS, pour qu'il change de nom. Je considérais qu'il fallait rassembler les bonnes volontés de gauche et de droite, que des gens qui pensaient la même chose ne pouvaient pas être séparés, etc.
Voilà, bon, moi c'est clair, il faisait du macronisme avant Macron. Patrick, Jeannette Bougrabe.
Ça, c'est la flagornerie ou la flatterie ou ce qu'on veut, c'est jamais très, très bon.
C'est une manière de cautionner son transfert, vous croyez? Il a changé de maillot, il a changé d'équipe?
Non, mais je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème idéologique, en tout cas au sein du Parti Socialiste. On le voit bien, d'ailleurs, quand il y a eu les primaires au Parti Socialiste, mais peut-être que c'est plutôt... C'est d'en parler qu'à moi-même, mais on voit bien que...
Vous lisez dans mes pensées.
Oui, non, c'est pour ça que moi, je ne me permettrai pas de dire cela, mais depuis 89, enfin, notamment sur les sujets... Moi, je ne vais pas parler de sujets que je connais moins, donc on voit bien qu'il y avait quand même une espèce de fracture entre sur des questions d'égalité, de laïcité. Moi, par exemple, je ne m'identifiais pas à ce qu'avait fait Martine Aubry à Lille, à savoir des horaires de non-mixité dans les piscines. On le voit bien aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts se positionne sur un certain nombre de sujets. On se demande où est l'écologie ou la défense de l'environnement ou le changement climatique. Donc, on peut comprendre que cette espèce de radicalité qu'il y a dans ces formations-là, eh bien, pousse quand même à rejoindre d'une certaine manière un parti de centre-droit, c'est ce qu'Emmanuel Macron.
Oui.
Emmanuel Macron n'a pas inventé, c'est que c'est un mouvement de centre-droit.
C'est le sens de l'histoire, Frédéric Dabi, vraiment, pour le coup?
Non, le sens de l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, les fameuses...
De glisser, voilà, les fameux
les
blocs.
Les fameuses de gauche irréconciliables dont a parlé, qu'a théorisé en son temps Manuel Valls. C'est vrai que, factuellement, ce qu'il dit est vrai. Il voulait changer le nom du Parti Socialiste qui avait fait que, lors d'université d'été à La Rochelle, il avait été un petit peu, je crois... secoué. Je n'ai pas souvenir qu'il ait voulu ouvrir jusqu'à la droite. Ce n'est pas un souvenir que j'ai quand il était Premier ministre. Mais c'est vrai qu'il a, théorisé un clivage, des fractures programmatiques entre la gauche radicale, qu'on l'appelle gauche de la gauche, l'extrême gauche, qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon, même si, quand on interroge les Français dans des sondages, IFOP, JDD, donc c'est ici, dans cette maison, qui incarne le mieux la gauche, ça fait maintenant un an et demi, deux ans que, faute de combattants au PS ou ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne le mieux la gauche pour les Français et pour les sympathisants de gauche. Mais c'est vrai que cette fracture est là, béante, et c'est vrai que cette fameuse NUPES, est-ce que c'est un brick, comment dire, un accord, je ne trouve pas le mot,
électoral, c'est un accord électoral.
Une tambouille, ouais. Un rafistolage électoral, ou bien, imaginons, même si je pense qu'ils n'auront pas la majorité absolue, que c'est l'amorce, l'esquisse d'une sorte de, d'union à gauche qui a pouvoir prospérer lors des élections intermédiaires du prochain quinquennat.
Alors, je recentre le débat sur Manuel Valls, encore une fois. Jeudi soir, vous le savez sans doute, l'ancien Premier ministre a été officiellement investi par Renaissance, donc ex-LaREM, dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Mais problème, il y a Stéphane Vojetta, le député sortant, membre de la majorité présidentielle, lui aussi, qui a bien prévu de se présenter. Le parlementaire, d'ailleurs, s'est fendu d'un communiqué de presse sur son compte Twitter, arguant qu'il est le candidat naturel à l'investiture. Franchement, ça fait désordre, Philippe Doucet, cette tentative de parachutage. C'est comme ça qu'il le dit, Vojetta.
Enfin, je ne vais pas m'occuper des affaires de Renaissance, mais vous êtes un député sortant sur une circonscription. Moi, je ne le connais pas, mais enfin, s'il n'a pas démérité, il peut se dire pourquoi...
Il était longtemps suppléant, ça fait 15 ans qu'il vit en,
Espagne. Il peut se dire, bon, pourquoi alors je fais le boulot et on parachute quelqu'un qui a fait, qui était à Évry, et puis après qui est parti, bon...
Parce qu'on le rappelle, il avait tenté sa chance, hein, Manuel Valls, à la mairie de Barcelone en 2018, mauvaise pioche. Et depuis son retour en France, sa démission de conseil municipal.
Je ne veux pas commenter les errements de Manuel Valls, parce que je trouve ça franchement pas intéressant. Non, par rapport à sa tentative, par rapport à Digue ou la fille du Macron, le sujet, c'est qu'il y avait une opportunité pendant le quinquennat de François Hollande de construire une gauche social-démocrate qui assume un certain nombre d'éléments. Et en fait, il ne l'a pas fait. Il s'est mis... il a monté une bagarre avec les frondeurs et les frondeurs ont monté une bagarre avec lui. Sauf que quand vous clivez comme ça, le problème, ce n'est pas simplement de cliver. Hein, parce que quand on théorise les gauches irréconciliables, que un essayiste dise, un sondeur, un essayiste, un politiste dise les gauches sont irréconciliables parce que sur la laïcité, sur l'Europe, ils ont des désaccords de fond. Mais quand vous faites de la politique, vous ne clivez pas. Vous êtes là pour construire un chemin politique. Et donc lui, au contraire, à la place de construire un chemin politique, il a construit une tombe politique pour le courant qu'il s'était censé défendre. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, il y a aussi, j'aime pas le mot, mais il y a aussi une espèce d'éthique en politique. Vous ne pouvez, à la fin, quand vous finissez pour des électeurs de gauche, des citoyens, quand vous appelez au régional à voter pour Valérie Pécresse, quand vous êtes un francilien des classes populaires, Valérie Pécresse, c'est pas votre tasse de thé. Je dis pas qu'elle n'est pas respectable et ça, mais c'est pas votre tasse de thé. Donc vous vous dites, attendez, il y a quelqu'un qui vient de la gauche, qui est censé venir de la gauche, et qui dit à la fin, Valérie Pécresse, je la kiffe. Eh ben à un moment donné, on perd les repères. Donc, on est dans une logique de perte de repères. Donc c'est ça le sujet. Donc aujourd'hui, Valls, c'est quelqu'un qui perturbe des repères et qui ne construit pas, mais qui détruit. Voilà, c'est pour ça que je suis plutôt en colère par rapport à ça, parce que finalement, sa propre famille politique d'origine, il vient des Rocardiens, eh bien, le courant de Michel Rocard, ce n'était pas finir avec Valérie Pécresse.
Bon, Patrick Aram, rapidement, vous avez 30 secondes.
Quand vous parlez des classes populaires comme si vous les connaissiez, ça fait longtemps
que
ça fait quand même longtemps que les classes populaires ont quitté le Parti Socialiste, le Parti Communiste et sont allés rejoindre d'autres
courants politiques. Justement, quand vous êtes un dirigeant politique, c'est ce que je viens de dire,
la question du parachutage, c'est pas une question en soi, ça a toujours existé en politique, ça a émaillé l'histoire du Parti Socialiste, l'histoire des LR, mais ça fait partie de ces choses où vous avez parfois une décision collective, parfois le fait du prince. Là, vous avez le fait du prince, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a dit,
en tout cas,
il a annoncé la couleur, il décidera de chacun et chacune des investitures qu'il donnera. Et il dit, ce sera sur un élément, leur fidélité intuitive personnelle, c'est-à-dire à sa modeste personne. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui un homme qui a décidé et qui a confiance dans la parole d'Emmanuel Macron.
Allez, on continue évidemment à parler ensemble, à décrypter l'actualité. On va revenir sur les déclarations d'Olivier Faure et de Jean-François Copé aussi. C'était ce matin. En attendant, le journal dans quelques instants.
Europe Soir Weekend.
Céline Géraud.